Approchez. Plus près.
À trois, ouvrez les yeux et dites-moi ce que vous voyez.
Un, deux...
Libradio, www.libradio.org. Un regard beau comme un prolétarien, sur un monde turbide comme un bourgeois. Quitte la fange, rejoins la gang. info@libradio.org.
Bonjour Ali, merci bonjour. D'être venu jusqu'à
c'est
nous.
C'est moi qui te remercie.
C'est un grand plaisir. Alors tu fais partie et tu vas nous en dire quelques mots de l'ADEC. L'ADEC, c'est l'association des étudiants kurdes à l'Université de Genève. Et dans ce cadre-là, vous organisez une soirée, un concert de musique de Mésopotamie et d'Anatolie, jeudi 29 novembre, jeudi prochain à 20h, ce sera au Temple de Plein Palais. On va bien entendu parler de ce concert-là et de la musique, mais avant cela, vous devez tout te présenter un petit peu plus en avant et nous dire quelques mots de l'association ADEC.
Donc d'abord moi c'est Ali, j'ai 19 ans, je suis né à Paris et je suis comme on dit aujourd'hui, je suis d'origine kurde. Et donc l'ADEC c'est quoi? L'ADEC en fait c'est une vieille association à ce que je sache, genre, j'arriverai même pas à te dire la date de création. Et on est juste voilà, quelques étudiants qui sont intéressés par sensibiliser un peu les gens, essayer de montrer ce qui se passe un peu au Kurdistan, que ça soit culturellement, politiquement, de toute façon c'est lié, donc voilà.
D'accord.
Ça la date.
Alors là, pour cette occasion, vous avez choisi l'axe de la musique, mais est-ce que la DEC organise également des choses qui sont autres que de la musique?
Oui, bah déjà ce 10 décembre, on organise une conférence sur la peine de mort en Iran. La peine de mort en Iran, donc c'est très important. Il y a quelques mois, de toute façon, il y a eu encore un activiste kurde qui a été pendu. C'est très, 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 très courant en Iran, ce genre d'exécution. Ils sont souvent accusés de trafic de drogue, je ne sais quoi, mais c'est souvent pour leur militantisme qu'ils sont pendus, ces gens-là.
Ouais. Voudrais-tu peut-être, justement, quelques mots, on ne va pas le faire ce soir, on le fera une prochaine fois, mais poser quelques jalons concernant la question kurde?
Ok, les Kurdes, c'est quoi? Les Kurdes, c'est 40 millions de personnes. 40 millions de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la Mésopotamie, l'Anatolie, ou plutôt, si on veut parler en États-nations, bah, qui vivent sur 4 États-nations, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie.
D'accord. Et plus la population en diaspora.
Oui, plus la diaspora. Plus
en Allemagne.
En Allemagne, où ils sont 1 million, en France, 150 000, en Russie, un peu partout aux États-Unis.
Et on peut dire que peut-être ce qu'ils assimilent les uns aux autres, c'est par ailleurs le fait qu'ils soient dans un état de répression, enfin, qu'ils subissent une répression massive.
De toute façon, cette diaspora, elle est expliquée par la répression et rien d'autre. De toute façon, ça vient des conditions de vie, des perspectives de quand. De toute façon, c'est aussi forcé aussi. Bon, faut pas oublier que les Kurdes ont surtout été déplacés de force, malgré ce qu'on essaie de... Des fois, il y a aussi un facteur en mode pas d'avenir économique, etc., ce genre d'histoire, mais il y a aussi par force. On peut parler dans les années 90, quand la Turquie a brûlé des milliers, je dis des milliers de villages. On parle pareil, Kurdistan d'Irak, c'est pareil. Saddam, à l'époque, dans les années 90 aussi, on parle de milliers de villages. Des milliers de villages, ça veut dire des millions de personnes.
Alors, comme on l'a dit, c'est un sujet extrêmement complexe sur lequel on reviendra à une occasion précise. Voudrais-tu peut-être encore nous raconter quelque chose de toi, de ta famille, de ton parcours, de ta trajectoire?
Bien sûr, je pourrais. Bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis né dans... Comment on peut appeler ça? Bah, je veux dire, j'ai jamais été, mais mon père et ma mère, en général, ils ont toujours... Je ne sais pas parler kurde, déjà pour commencer. Je ne sais pas parler kurde, j'apprends le kurde maintenant. Ils m'ont pas appris le kurde, ils m'ont toujours dit, par rapport à l'identité, toujours très très caché. Je suis né en France, je suis né à Paris, donc t'es français, religion, si on te demande, t'es rien, ne dis rien. Ouais. Parce qu'en plus d'être kurde, je suis aussi à Lévis. Pour en reparler, c'est un autre fardeau, on va dire.
Tout à fait. Parce que là aussi, on a une population qui subit une répression implacable.
Voilà. Donc,
des déplacements.
Donc, Donc voilà, donc par rapport au, par rapport à donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment j'ai bougé en Turquie, mes parents ont bougé en Turquie, donc je suis parti vivre à Istanbul. Et c'est là-bas peut-être que petit à petit j'ai eu mes premières c'était sur Twitter, je crois. J'ai commencé à avoir les premiers tweets comme ça, des militants, je sais pas quoi. J'ai commencé à me poser des questions. Il y a eu Kobané, etc. Voilà, tout doucement, j'ai commencé à me poser des questions. Et voilà, à travers, voilà, cette question kurde, à travers, quand tu vois, parce que c'est clair, en fait, l'oppression. Quand, c'est la première fois que j'ai vu, j'ai pu comprendre ce que c'était un système de domination, en fait.
Mmh. Et c'est alors arrivé à Genève que tu intègres cette... association d'étudiants qui existait déjà, tu as dit, depuis un moment.
Ouais, depuis un moment, je ne saurais même pas te dater.
Ouais, okay. Ouais. Ok. Et puis alors, où est-ce qu'elle en est, cette association? Est-ce qu'on peut retrouver ses activités, une page Facebook, un site internet?
On a une page Facebook, ADEC, Association des étudiants kurdes de l'Université de Genève, vous trouverez sur Facebook. Et normalement, là, déjà, ça va être sympa, déjà, cette conférence, mais le semestre prochain, il faut vraiment rester bien attentif, parce qu'on risque de préparer quelque chose, cette fois, de beaucoup plus... Je veux dire, on va parler de confédéralisme démocratique, et je pense c'est la vie. Ouais. C'est la vie. Le confédéralisme démocratique, c'est la vie. Ouais.
Des personnages comme Ocalan,
Ocalan, bien sûr. On pourra en reparler aussi tout à l'heure de Ocalan, peut-être.
S'il fallait lancer un appel concernant justement cette association, de quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'il y a besoin que de nouveaux membres affluent? Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu d'argent? Est-ce que vous avez besoin de personnes qui vous disent « Venez chez nous faire une conférence » ou dire des choses?
Nouveaux membres et aussi des liens, en fait. Pour les gens, parce qu'il y a eu à Genève et en Suisse en général, dans le coin, il y a des événements de soutien, etc. Et peut-être ne pas hésiter, en fait, à nous contacter. On est là pour ça, de créer des liens. Je pense qu'on pourra faire des choses ensemble.
Alors, comment est-ce qu'on vous contacte? Via la page Facebook?
Via la page Facebook. D'accord. Via la page Facebook.
Dernière petite question, et puis ensuite on parlera effectivement au concert que vous organisez donc le 29 jeudi prochain, ici à Genève, au Temple de Plein Palais. Y a-t-il un réseau de résistance kurde, notamment en Suisse et en Europe, auquel vous pouvez faire référence et avec lequel vous pouvez vous allier? Est-ce que vous trouvez assez facilement des alliés, des personnes qui peuvent vous aider?
C'est
soit dans la communauté kurde ou ailleurs, des partis, des groupes de citoyens.
On en trouve. Si on veut, on en trouve. Ouais. Je vais prendre court. Ouais, on peut en trouver.
C'est une cause, je veux dire, qui est quand même un peu porteuse. Hein.
Qui est porteuse, mais voilà, à la fin, ça reste limité. Hein. J'allais dire, ça reste... Je veux dire, j'en demande... C'est pas que... Je sais pas que j'en suis pas... On n'en est pas... On n'a pas de gratitude envers ça, mais à la fin, je veux dire, les Kurdes, ça reste un peuple qui n'a pas d'amis sauf les montagnes, déjà.
Entre guillemets.
Et en plus, ça reste assez sévère. Au fond, on a plein d'amis. Je veux dire, ici, il y a peut-être toi, il y a peut-être d'autres mondes. Mais ce que je veux dire au niveau des puissances, etc., on est supporté par personne. Je veux dire, au niveau des États-nations, etc.
Dernière question. Selon toi, si on prend le S en colosse au pied d'argile qu'Erdogan, selon toi, la situation en Turquie, est-ce qu'elle est amenée à évoluer, dans quel sens? Est-ce qu'on peut être optimiste ou est-ce que c'est difficile?
En Turquie, moi je pense que... C'est, en fait, je ne peux pas me permettre, en fait, d'être pessimiste. Mais vous savez, il y a la fameuse phrase, là, le pessimiste, c'est quoi? C'est l'optimiste de l'intelligence, c'est le pessimiste de la volonté. Le pessimiste de l'intelligence et l'optimiste de la volonté. Je pense que c'est ça. Et au niveau, bien sûr, quand on regarde les faits, toutes les bonnes personnes, les personnes qui imaginent un futur sain, qui imaginent quelque chose où, qui imaginent un futur avec de l'égalité dans le pays, etc. Elles sont toutes en prison, en fuite. C'est pas elles qui sont loin d'avoir l'hégémonie, loin d'avoir cette influence, et qu'à la fin, l'avenir, même s'il y a des guerres, etc., au Moyen-Orient, il est très pourri, parce qu'en fait, il est pourri dans les bases, parce qu'il y a pas, il y aura jamais de bonnes, il y a pas les bonnes idées qui circulent. C'est impossible. Il y aura que des guerres. Là, je vais faire un petit passage aussi, un petit point sur le fait que, de toute façon, on peut pas parler de la Turquie aussi isolée. On peut parler de la Turquie isolément, mais moi, je pense qu'il faudrait plutôt parler aussi du Moyen-Orient en général, parce que faut aller sur une plus grande échelle. Tant que les peuples du Moyen-Orient restent isolés, dominé par ces différents États-nations qui sortent ce vieux concept tout pourri, qui, qui fait que de nous... Si, peut-être qu'il en rend puissant certains, mais croyez-moi, pour le citoyen du Moyen-Orient lambda, ça va plus contre ses intérêts qu'autre chose. À la fin, c'est pas du tout avec ces mentalités qu'on va s'en sortir, qu'on va...
Alors c'est vrai que malheureusement, le Kurdistan est enserré dans ces pays qui sont effectivement... qui ont des régimes durs, hein, que ce soit la Turquie, l'Iran,
mais la Syrie, l'Irak, mais...
Il est vrai que, et je voulais encore avoir ta vue, par rapport à Öcalan, justement, qui est donc incarcéré depuis maintenant plus de 10 ans, d'ailleurs qui a été même incarcéré seul, hein, sur lui, pendant un long moment.
Sa petite île,
il est... Voilà, une île vraiment personnelle. Et effectivement, l'idée maîtresse, c'est le confédéralisme démocratique. Ça, et effectivement, c'est de réinventer le concept, de dépasser le concept d'État-nation.
C'est la seule solution. Et ça, je ne parle pas que pour les Kurdes. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est pour que ce soit les Arabes du Liban, de Syrie, d'Irak. C'est la seule solution, c'est de s'imaginer de pouvoir se confédérer à une échelle plus grande. Et pour se confédérer à une échelle plus grande, il faut arrêter ces mentalités nationalistes avec lesquelles on ne pourrait jamais se confédérer de façon. Pour pouvoir se confédérer, il faut avoir une autre vision des choses, une autre mentalité, d'autres bases. C'est ce que Öcalan avance, et voilà, on s'organise au niveau du quartier, etc. Ça monte, et tout ça en respectant les préceptes de la démocratie, que chaque groupe ethnique, religieux puisse se représenter ses intérêts. Même, je veux dire, de la façon dont c'est fait, ça fait que ça peut que partir d'un bon pas. Ça fait que c'est
très... Concernant les femmes également, c'est que les femmes ont une place extrêmement importante.
Dans le mouvement kurde et même dans les visions d'avenir, parce que... En fait, la révolution, elle va se faire à travers la femme, parce qu'en fait, je pourrais parler un peu de ça, par exemple, parce que pour Öcalan, pour analyser, il remonte à plus loin. Je veux dire, ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il prend beaucoup de recul sur l'histoire. Quand je dis beaucoup, c'est pas comme aujourd'hui quand on demande à quelqu'un dans la rue, je sais pas, l'humanité, ça date de combien de temps? Il va te dire quoi? 3000 ans, 4000 ans? Je sais pas, ils savent pas trop situer. Donc, pour faire court, allez, 4 milliards 500 millions d'années, t'as la Terre, 3 milliards 600 millions, un truc comme ça, t'as la vie. Il y a 10 millions d'années, t'as les premiers, en Afrique de l'Est, t'as les premières choses qui sont un peu humanoïdes, etc. Et pour encore sauter les trucs, il y a 200 000 ans, vous voyez déjà les échelles, comment ça bouge, il y a 200 000 ans, il y en a quelque chose qui ressemble à l'Homo sapiens, qui ressemble à nous aujourd'hui. Encore, on va sauter encore pas mal de choses, on arrive à il y a 10 000 ans. En fait, il y a 10 000 ans, il s'est passé quelque chose de très important. C'est la révolution néolithique. C'est plus qu'important. C'est pour voir ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre la révolution néolithique. C'est à ce moment que, déjà à cette époque, on a la femme mère, la mère déesse un peu. C'est elle la petite bosse de la famille. C'est super important. C'est la vie. C'est elle. C'est toute une autre mentalité qui est tout l'inverse d'aujourd'hui, qui est tout l'inverse de la mentalité matérialiste de l'homme, du patriarcat. C'est là-bas que ça commence. Et c'est après, petit à petit, avec les premières cités-états sumériennes en Mésopotamie, etc., que voilà, cette tendance va s'inverser, que les hommes vont commencer à posséder les femmes, que bref, avec les premières villes. C'est aussi l'asservissement de la femme, c'est les hommes qui prennent le pouvoir sur la femme, etc. Donc tout ça, en fait, là, j'ai fait tout ce recul pour dire que Öcalan, pour dépasser voilà, pour aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est pas de dépasser un capitalisme qui date de 500 ans, etc. Il dit, c'est pas, vous regardez trop près, genre, vous comprenez pas, c'est pas comme ça que ça marche. On l'a vu, cette mentalité, on l'a vu avec les soviets, etc. C'est pas là le point, il faut remonter à, il y a 10 000 ans, il faut voir à ce moment-là, et c'est à ce moment, il faut remettre la femme, faut peut-être qu'elle redevienne notre déesse, c'est peut-être ça, en fait, c'est pour ça.
D'accord. C'est très intéressant, et on y reviendra. Mais pour aujourd'hui, eh bien, nous allons évidemment parler de ce jeudi prochain, ce jeudi 29 novembre, où à la salle de Plein Palais, eh bien, vous allez organiser un concert de musique mésopotamienne et de musique d'Anatolie, en recevant...
Monsieur Rüşen Filistek, Donc Rüşen Filistek, c'est qui? C'est un jeune qui doit avoir 28 ans, je crois, qui nous vient de Diyarbakır, de Ahmed, la capitale du Kurdistan, qui est aujourd'hui le Kurdistan turc. Donc ça fait quelques années qu'il est en Europe. Il étudie à la Sorbonne, je crois qu'il fait un master d'ethnomusicologie ou quelque chose comme ça.
D'accord. Ah, donc c'est
même
son sujet d'étude.
Oui, oui. Mais bon, à part ça, ça c'est bon, c'est des petits détails, mais pour lui qui il est, donc c'est un strandbeige. Un strandbeige, c'est quoi? C'est un ménestrel. Donc à l'aide de son petit luth anatolien, ce qu'on appelle le saz, il maîtrise donc le divan saz et le baglama et il excelle, genre c'est un petit virtuose, donc et aussi il chante très très bien, sa voix elle porte. Il chante quoi? Il chante des petites des ballades, des vieilles musiques d'amour, des trucs un peu humoristiques, mais même humoristiques c'est... Non, ce que je voulais dire c'est que en fait ce que j'aime beaucoup avec ce type de musique, c'est avec les gars comme Rushen Filistek, c'est que ils arrivent à... Parce qu'en fait, les musiques qu'ils chantent, c'est pas des musiques, c'est des musiques qu'on peut dater, on peut même pas les dater. Comme notre association, on peut les dater à des siècles, c'est quelque chose de très... Et ça fait plaisir, en fait, d'entendre ce genre de choses. C'est comme je l'ai dit, ça me permet un peu de prendre du recul. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la petite tyrannie des modes, de l'événementiel, voilà, les événements, donc ça nous permet de prendre... Et ça fait du bien que ça passe à l'oreille, hein, c'est beau.
On peut dire que c'est un répertoire de musique populaire, de musique traditionnelle.
Oui, traditionnelle. Ah, okay.
Et est-ce que c'est une tradition orale ou est-ce qu'il y a des partitions? Enfin, je veux dire, d'où viennent ces airs et ces paroles? Est-ce qu'il les a cherchés et trouvés au travers de recherches? Ou est-ce que ce sont des témoignages qui ont été reportés, puis...
Je saurais pas te dire, mais si je devais spéculer, je dirais sûrement que c'est aussi des musiques qu'on entend. Je veux dire, les Kurdes, on est bercés dans la musique. Je veux dire, notre musique, c'est peut-être ce qui permet, c'est peut-être ce qui est un des piliers du maintien de l'identité kurde, c'est la musique. Et je pense que oui, il a sûrement les entendus par-ci, par-là, il a été initié aussi, parce que je pense qu'il y a aussi un petit côté, pour les musiciens comme lui, je pense qu'il y a aussi un petit côté ésotérique, un peu initiatique, je pense aussi, pour apprendre ses musiques. Ouais.
Alors justement, tu as ébauché la réponse, mais l'importance de la musique dans la culture kurde, on peut dire que c'est une des centralités.
Ah, c'est tout, ça fait vivre vraiment, genre il y a les musiques.
Quelles sont les fonctions de la musique? Est-ce qu'elles sont divertissantes, elles doivent faire rire, mais est-ce que c'est également pédagogique? Est-ce que c'est également pour endormir les enfants ou les éduquer?
Je vais t'en évoquer, je sais pas, j'ai trois types pour moi, je vais t'évoquer quelques types. Je vais commencer peut-être pour dire histoire un peu, on va commencer par les dengbèges. Les dengbèges, c'est quoi? C'est ceux qui chantent avec la voix, en fait, c'est un peu ce qu'on va faire, pour ceux qui connaissent Skyrim, c'est un peu les maîtres de la voix, ce que ça veut dire en fait, c'est des gens qui chantent donc a cappella, ou des fois un peu en compagnie d'instruments, mais qui ont une voix donc, qui chantent des très 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 vieilles histoires, et des moins vieilles histoires, qui donc toute l'histoire, la culture, tout est transmis donc à travers ces gens-là qui aujourd'hui ont, bon, je vais revenir plus tard, qui ont aujourd'hui perdu beaucoup d'influence, ça existe presque plus, c'est un art qui se perd. Mais par exemple, on disait qu'ils chantaient tellement bien que pour les meilleurs, ils arrivaient même à faire descendre les grues qui tournaient autour d'eux. Donc c'est quelque chose, c'est magique un peu. Et donc voilà, les dengbèges. Après, il y a aussi les musiques mariage, les musiques qu'on peut écouter lors des mariages, etc. C'est avec le, je sais pas comment on appelle ça, le davoul. Le davoul, ce serait
une percussion.
Percussion grosse, comme ça, je veux dire une, je sais pas comment expliquer, c'est assez gros. Dites-vous sur un mètre, un truc circulaire avec lequel on tape avec un bâtonnet en bois, comment on peut dire, dans la musique,
une baguette,
on va dire, mais une grosse baguette et bam 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 bam, des gros rythmes avec en même temps le zurna qui est une sorte, je sais pas si c'est, on peut dire c'est une sorte de flûte mais avec un son assez différent, donc voilà, des musiques un peu plus dynamiques qu'on utilise lors des événements, etc., pour des musiques plus festives, on va dire, qui sont aussi très très importantes.
On peut dire que les vies sont rythmées par des moments musicaux, parce que tu l'as dit, il y a des moments clés comme le mariage, les
clairement, ah oui, la vie d'un Kurde, elle est bercée par ses mariages, c'est aussi ses circoncisions, notre fête, vous voyez, beaucoup de davoul et de zurna. Et pour un troisième type, je voulais aussi évoquer, je sais pas, un type de musique, par exemple, bon, là on parle sur la musique zaza, moi je pense à la musique zaza, où là aussi ça évoque de l'histoire, là aussi ça évoque autre chose, c'est quoi? Ce serait plus, ils jouent avec du saz, le sas, c'est encore la lutte, et avec aussi des fois accompagné de ney, la flûte arménienne, le doudouk, etc. Et là, par contre, c'est des musiques qui... Je sais pas, moi, je pense à un gars, Mikhaïl Aslan, Ahmet Aslan, des musiciens, donc Zaza, qui vraiment, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, le Dersim, qui est un des principaux foyers Zaza, et c'est quelque chose qui a été assez martyrisé dernièrement, etc., qui a peut-être un peu perdu, qui a sûrement perdu sa splendeur d'antan. Mais quand on écoute, genre, en fait, je la croyais inexistante. J'aurais jamais cru que ça pu être autant splendide. Quand j'écoute aujourd'hui, je sais pas, une musique au hasard de l'album d'un album de Mikhaïl Aslan, je me rends compte à quel point c'était puissant, à quel point ils étaient loin, à quel point il suffit d'écouter pour voir. C'est n'importe qui va juste être avec. Waouh, c'était quelque chose. C'était quelque chose de ouais.
Alors là, tu l'as dit, en l'occurrence, Rushen. Félicité qui viendra donc le 29, on l'a dit,
le jeudi 29 novembre.
Ce sera donc à 20h à la salle
du Temple, de plein palais, qui est juste à côté du Nimaï.
Voilà, ouais. L'entrée est à 10 francs.
10 francs pour les étudiants, 20 francs pour les autres. Bon, après, si vous n'avez pas trop de thunes, vous le faites à 10 francs.
C'est juste, okay, voilà. Okay. Ouais. Il y a un buffet cure sur place également.
Il y a aussi un petit buffet kurde, bien sûr. Après le concert, il y aura ce petit buffet. On pourra parler de musique, on pourra parler d'un peu de tout, de politique, de tout ce qu'on veut. Ouais.
Encore une nouvelle petite question, bien et sûr. Puis on terminera là pour ce soir. Mais dis-moi, alors, tu l'as dit, c'est un peu une forme de musique de baladin, de troubadour.
Voilà.
Comment est-ce que ces savoirs se perpétuent-ils? Est-ce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'approchera ou aura choisi Rushen, et puis qui sera un peu son élève et qui sera le réceptacle de ses connaissances? C'est comme ça que ça se passe?
Ça varie. C'est quelque chose, ouais, ça se passe pas forcément comme ça. À la fin, comme j'ai dit, on écoute tous de la musique kurde. Donc, peut-être à un moment, il y en a un qui, je sais pas, qui va prendre un saz, qui va avoir un instrument, qui va, même s'il a pas forcément un talent pour ça, qui va peut-être réussir à exprimer des choses. Parce que comme je l'ai dit, c'est des vieilles ballades, mais qui parlent encore, en fait, qui parlent encore à n'importe qui. Et ce qui fait que quand ces vieilles ballades, elles ont pu expier les passions de gens depuis des siècles, peuvent aussi expier celles de gens d'aujourd'hui. Et quand une personne, elle peut s'en approcher, par exemple, comme ça.
Ouais, d'accord. Deux petites questions, et puis on se laissera là-dessus. Je vais te poser une première question, mais ce sera la dernière, c'est pour te laisser le temps d'y réfléchir. J'aurais voulu savoir, quelle est, à toi, ta chanson ou ta chanteuse, ton chanteur préféré dans le cadre des musiques justement de ce type-là, musique d'Anatolie, si tu as envie de dire, mais pense-y un petit peu. Et puis avant cela, j'aurais voulu savoir, pourrais-tu nous décrire un petit peu l'importance de la musique, le rôle de la musique dans la résistance kurde?
Dans la résistance kurde, par exemple, les musiques festives dont j'ai parlé tout à l'heure, ça.
Ouais.
Par exemple, sur le front, les YPG, ils étaient là en train de danser, ils étaient là en train de chanter, ils étaient là en train de faire avec leur you-you, avec tout, c'est galvanisant. Et même, je veux dire, aujourd'hui, malgré, comme j'ai dit, quand on voit le pessimisme de la situation, quand il suffit d'écouter une petite musique, un vieux groupe révolutionnaire ou je sais pas quoi, ça t'emplit. Après, si on parle un peu plus du truc, on peut dire aussi le PKK, il en est clairement conscient. Le PKK, il a clairement utilisé la musique comme moyen de propagande, et ça il a très bien fait marcher. Il y a combien de musiques du PKK aujourd'hui, tout le monde, combien de musiques du PKK aujourd'hui, il y en a tellement que tout le monde connaît, en fait, que voilà, que ça fait une première approche à la politique. Ouais.
Absolument, bah, oui, tout à fait. Et alors, justement, ta chanson, ta chanteuse ou ton chanteur préféré, si tu allais en citer quelques-uns, comme ça.
Ok. Je vais d'abord commencer par moi, mon préféré, c'est celui que j'ai évoqué plus tôt, Mikhaïl Aslan. Il a plusieurs albums, etc. Et lui, il est vraiment... Bref, il porte un grand héritage. Genre, il arrive à nous transmettre. C'est vraiment, faut le remercier pour. Et à part ça, Philistec, il est aussi très bon. Le chêne, c'est très bon. Et je peux aussi aller, pour changer un peu, je peux aussi citer Agrejian. Ça s'écrirait Agrejian. Un petit groupe des années 90 qui chante aussi des musiques un peu populaires, façon rock un peu, etc. Et qui gère beaucoup aussi. Franchement, c'est à écouter les trois. Là, je pense que Je mets ma petite parole, il n'y a personne qui sera déçu, je pense.
Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Ali. On en termine merci avec les informations concernant le concert, donc date, horaire, résumons tout
c'est
ça.
C'est ce jeudi 29 novembre à 8h, au temple de Plein Palais, à côté du Nimaï. L'entrée donc elle est à 10 francs pour les étudiants, à 20 francs pour les autres, et bien sûr c'est ouvert, je veux dire. Bref, et on aura donc un petit buffet cure après le concert, et on vous attend nombreux, les gens, on vous attend nombreux. Je pense, je peux pas, ouais, je pense à vous faire du bien à vous plutôt. Et
voilà, s'arrête là.
On s'arrête là, et j'aimerais te remercier énormément de m'avoir invité. Vraiment, allez, ça fait plaisir.
Et on va se retrouver tous ensemble, certainement.
J'espère.
Merci à toi.
Merci à toi.
Les Sans-Culottides, festival socioculturel solidaire aux Grottes, les 21, 22, 23 décembre. À tes risques et périls. Programme sur www.libradio.org.
Libradio, www.libradio.org. La radio qui n'annonce rien de bon.
Jamais.
Pour personne.